Bonsoir, mes chers amis. Si vous me le permettez, j'aimerais commencer par la parole du Seigneur. Ce texte que nous entendons et ne nous lassons pas d'entendre, et cette grande prière du Seigneur, je ne te prie pas seulement pour eux, je prie aussi pour ceux qui, grâce à leurs paroles, croient en moi. Que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi, et que je suis en toi. Qu'ils soient en nous, eux aussi, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux, comme toi en moi, pour qu'ils parviennent à l'unité parfaite, et qu'ainsi le monde puisse connaître que c'est toi qui m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Acclamons la parole du Seigneur. Alors, mes chers amis, j'ai accepté volontiers cette invitation. Parce que, précisément, les thèmes qu'on m'a demandé d'aborder peuvent se regrouper autour de l'unité. L'unité est cette mission que le Seigneur semble vouloir demander à notre équipe de Pax Vobis, et c'est pourquoi il me fait plaisir d'avoir accepté d'être ici durant ce week-end. La ligne de fond est donc l'unité. Nous allons parler ce soir d'unité en nous, entre la prière et l'engagement. Demain avant-midi, demain après-midi, nous parlerons de l'unité entre nous dans la pratique de la charité fraternelle. Et demain soir, nous parlerons de l'unité avec nos frères séparés, sous le thème de l'écuménisme. Alors, c'est donc en filigrane, durant toute cette récollection, le thème de l'unité. La façon de procéder sera de prendre les situations concrètes que nous vivons plutôt que d'aller prendre ces notions dans leur exposé général ou sous forme de grands principes. Je pense que nous sommes tous convaincus de l'importance de l'unité. Nous la désirons, nous la recherchons, mais le malin réussit souvent à venir nous brouiller au moment où nous discutons d'unité. Combien de chrétiens actuellement s'affrontent sur des divergences de vues concernant la prière puis l'engagement? Combien de chrétiens se chamaillent dans leur façon de procéder et même de discuter ou d'appliquer le « aimons-nous les uns les autres » et combien encore s'affrontent, se divisent, se heurtent quand ils veulent, au nom de l'écuménisme, créer l'unité de tous les chrétiens, parce que chacun conçoit l'écuménisme à sa façon et vient en conflit avec les autres. Alors, prenons le thème de ce soir, la prière et l'engagement. Pourquoi vaut-il la peine de s'arrêter à ce sujet? J'y vois trois premières raisons. C'est qu'actuellement, il y a en circulation une accusation assez répandue contre ceux et celles qui se consacrent activement aux groupes de prière. Dans bien des milieux d'apôtres socio-chrétiens, on reproche aux gens consacrés à la prière et au ministère et au service d'être trop repliés sur eux-mêmes et pas assez engagés. Et de là à les soupçonner de ne pas vouloir s'engager par esprit réactionnaire ou par souci de ne pas trop se compromettre, il n'y a qu'un pas. Et alors, il nous faut absolument désamorcer cette accusation, qui dans certains cas peut être fondée, mais ne l'est pas en principe, et ne l'est pas dans l'ordre d'intention des gens. Une deuxième raison d'aborder ce sujet, c'est qu'il y a, vous le savez comme moi, une espèce de chicane entretenue entre ceux qui disent qu'il faut d'abord s'engager, puis après ça on prie, puis les autres qui disent qu'il faut d'abord prier, puis après ça on s'engage. Et cet éternel refrain qu'on entend là, et qui se regroupe sous les deux étiquettes, l'horizontalisme. Les gens qui disent le premier devoir des chrétiens, c'est une responsabilité horizontale vis-à-vis leurs frères. Et après ça, un lien vertical avec le Seigneur. Alors, on oppose horizontalisme à verticalisme. Et les uns poussent ça à l'excès et disent, quand on leur dit, bien, est-ce que vous êtes bien engagés comme chrétiens? Est-ce que vous avez le temps de prier? Il y en a qui poussent l'ironie jusqu'à dire, bien, il y en a qui prient assez. Ils prient pour moi, puis moi je m'engage pour ceux qui ne s'engagent pas, etc., etc. Bon. Une autre raison, une dernière raison qui me préoccupe et qui m'intéresse, qui m'incite à aborder ce sujet-là, c'est qu'au contraire, je suis sûr qu'il y a la plus belle coordination à faire entre ce lien avec nos frères et ce lien avec le Seigneur, entre tous ces efforts et tous ces groupes et tous ces services et ministères de prière et la préoccupation actuelle des gens de s'engager comme chrétiens pour la libération de notre société. Alors, le plan de cet enseignement est celui-ci. Demandons-nous pourquoi faut-il s'engager comme chrétien? En second lieu, comment s'engager comme chrétien? Et finalement, où s'engager comme chrétien en priorité. Pourquoi s'engager? Bien, je veux juste rappeler à notre attention là, ces exhortations de Saint Jacques, quand il nous dit « Soyez les réalisateurs de la parole et pas seulement des auditeurs qui s'abuseraient eux-mêmes. » En effet, si quelqu'un écoute ma parole et ne la réalise pas, il ressemble à un homme qui observe dans un miroir le visage qu'il a de naissance. Il s'est observé, il est parti, il a tout de suite oublié de quoi il avait l'air. Mais celui qui s'est penché sur une loi parfaite, celle de la liberté, et s'y est appliqué non en auditeur distrait, mais en réalisateur agissant, celui-là trouvera le bonheur dans ce qu'il réalisera. Et au chapitre suivant, il a plusieurs exhortations où il parle que sans les œuvres, la foi est morte. À quoi bon, mes frères, dire qu'on a de la foi si l'on n'a pas d'œuvres? Ou encore, veux-tu te rendre compte, pauvre être, que la foi est inopérante sans les œuvres? En effet, de même que sans souffle le corps est mort, de même aussi, sans œuvre, la foi est morte. Bon, alors, on a beau parler de la parole de Dieu, cette parole va être vivante et agissante dans la mesure où nous, qui l'étudions, la connaissons et la prions, trouvons le moyen de l'actualiser. S'engager en chrétien, il y a trois motifs principaux. Il nous incite à le faire. Le premier de ces motifs, c'est de collaborer à l'action créatrice de Dieu en organisant un monde d'une façon digne de lui. On le sait très bien, Dieu aurait pu créer un univers parfait, civilisé, achevé, organisé, structuré, où tout serait déjà une symphonie achevée. Mais non. Il a voulu un rythme où il a donné une orientation, il a créé l'univers, il a mis dans l'univers un dynamisme, une vocation, et puis il nous a demandé de prendre le relais pour achever son œuvre. On voit dès le début de la Bible qu'il institue la famille, il confie à l'homme la richesse nécessaire pour son travail, et on voit vite apparaître, dès le début, un besoin d'organisation familiale, économique, politique, sociale. Donc, c'est le désir de Dieu que nous soyons ses associés pour continuer à procréer le monde. Ça a été repris d'ailleurs, cette thèse-là, de façon très, très claire, très nette, dans le document du Concile, Vatican II, ce décret conciliaire qu'on appelle Gaudium et Spes, qui est sur la présence au monde. Et là, il est très bien dit, dans les articles 33 et 35, entre autres, pour les croyants, une chose est certaine, considérer en elle-même l'activité humaine individuelle et collective, ce gigantesque effort par lequel les hommes, tout au long des siècles, s'acharnent à améliorer leurs conditions de vie, correspond au dessein de Dieu. L'homme, créé à l'image de Dieu, a en effet reçu la mission de soumettre la terre et tout ce qu'elle contient, de gouverner le cosmos en sainteté et justice, et en reconnaissant Dieu comme créateur de toutes choses, de lui référer son être ainsi que l'univers, en sorte que, tout étant soumis à l'homme, le nom même de Dieu soit glorifié par toute la terre. Alors, notre premier devoir, c'est de s'engager à collaborer à l'action de Dieu en tant que chrétien. Notre deuxième devoir, c'est de nous engager pour lutter contre le péché et ses suites, les injustices sans nombre. Évidemment, le péché ne prive pas l'homme de maîtriser l'univers, mais le péché et ses suites s'opposent continuellement à l'établissement d'une société juste et fraternelle. Le péché et ses suites suscitent des instincts de domination, des situations de conflit, de l'égoïsme, de l'oppression, des inégalités de tout genre, et le chrétien ne peut pas se résigner à laisser faire les choses. C'est donc dans la volonté de Dieu que, comme chrétien, nous commencions un combat contre le péché et ses suites qui empêche l'univers de continuer à se développer selon le plan de Dieu. On pourrait dire que le combat est donc le fond de l'ascèse chrétienne. Et le combat, ce n'est pas seulement quelque chose à l'intérieur de nous-mêmes, entre la chair et l'esprit, mais c'est une lutte à l'extérieur de nous-mêmes, contre tout ce qui entrave le plan de Dieu. Et c'est pour ça qu'on retrouve dans saint Paul, aux Éphésiens ou aux Corinthiens, des images de lutte. On connaît son image là, militaire, quand il nous parle que le combat de la foi, se revêtir de l'armure de Dieu, la vérité pour ceinturon, puis la justice pour cuirasse, le bouclier de la foi, le casque du salut, le glaive de l'esprit. Alors, toutes ces expressions de saint Paul ont pour but de nous rappeler que nous sommes des combattants comme chrétiens. À d'autres moments, quand il s'est adressé aux Corinthiens, il a pris une image sportive. Il parle de la discipline des athlètes qui... On en parle beaucoup de ce temps-là, des Jeux olympiques, qui participent à des joutes pour arriver à une couronne, puis qui s'entraînent, puis qui ne vont pas à l'aveuglette, etc., etc. Là-dessus, je pourrais vous suggérer un ouvrage d'un frère de Thésée, Max Turian. Un ouvrage qui s'appelle « L'homme moderne et la vie spirituelle ». Et là-dessus, il a de très belles pages sur ça, la 16 de combat que nous devrions tous avoir. Donc, le chrétien n'est pas un introverti ou un intraverti. C'est un homme qui est engagé par le Seigneur puis enrôlé par l'Église pour mener la lutte au sein du monde. Pourquoi on veut rétablir le plan de Dieu? Ce n'est pas pour arriver à établir une société tranquille, paisible, où il fera bon vivre en paix. Mais c'est parce que, en luttant et en travaillant comme ça, à servir, à aimer et à aider nos frères, c'est là qu'on retrouve le Christ vivant en nous et qu'on finit par trouver sa vocation chrétienne. Une troisième et dernière raison pour laquelle un chrétien doit s'engager, c'est que nous devons aimer tous les hommes, nos frères. Et si on veut continuer le plan de Dieu, puis on veut lutter contre le péché et ses suites, c'est en définitive pour pouvoir donner aux hommes, nos frères, l'amour du Seigneur. Et ça, ça nous conduit à ce qu'on appelle l'apostolat. Donc, l'engagement temporel et l'apostolat ne se séparent pas. Demandons-nous maintenant comment s'engager. On vient de voir pourquoi s'engager, il y a trois raisons. Maintenant, comment s'engager? Je dirais qu'il y a trois étapes pour arriver vraiment à un engagement chrétien où la prière et l'engagement s'intègrent parfaitement. On doit d'abord commencer par ce que j'appelle une prière qui s'engage. Ensuite, un engagement qui se prie. Et finalement, une prière et un engagement qui se lient l'un à l'autre. Une prière qui s'engage. Pour quelqu'un qui a une vie de prière très active et qui ne s'est pas engagé dans l'apostolat, un prérequis, un préalable, c'est déjà de commencer à s'engager à travers sa prière, de commencer à parcourir et à conquérir le monde par sa prière. Pas seulement son milieu ou son monde, mais commencer à penser aux autres régions, aux autres catégories de la société, aux autres pays, aller par ses intentions de prière visiter le monde. Vous vous rappelez sans doute du temps où on avait ces prières, ces petits feuillets de l'apostolat de la prière. On nous disait au mois de janvier, on prie pour les Chinois, puis on prie pour telle autre intention, puis au mois de février, on priait pour les Africains, et puis d'autres groupes. On nous proposait des intentions internationales et des intentions d'Église ou des intentions régionales. Et aujourd'hui, il y a peut-être une tendance. Devant l'urgence des problèmes qui nous entourent, en commençant par nos propres problèmes individuels, nos maladies, nos soucis, nos préoccupations, notre famille, notre entourage, de nous concentrer d'une façon disproportionnée, je dirais, sur concentrer notre prière sur ces problèmes-là et oublier le reste du monde. C'est curieux si on faisait un sondage rapide ici ce soir, puis dire combien prient par exemple régulièrement là, pour le règlement du problème de l'Iran, l'Afghanistan, combien prient régulièrement là, pour la solution du Moyen-Orient, pour telle et telle catégorie. On va bien penser à l'occasion, mais régulièrement. Et pourtant, on a eu dans nos ancêtres, ici au pays, parmi les fondateurs et fondatrices de l'Église canadienne, des gens qui nous ont montré, qui nous ont donné l'exemple quand on pense à Marie de l'Incarnation, qui avait une prière apostolique que je récite pratiquement tous les jours. Puis elle dit ceci, « Je fais en esprit le tour du monde pour chercher toutes les âmes rachetées et prier par le cœur du divin Jésus, le Père, pour tous les aveugles volontaires, tous ceux qui ne l'entendent pas, etc. » Sainte Thérèse de Lisieux, qui est venue, elle, 3 siècles après Marie de l'Incarnation, disait la même chose de son Carmel. Si l'Église est un cœur, un corps, moi je veux être au cœur de cette Église, brûlant d'amour pour tous ceux qui sont sur la route, les membres, les apôtres puis les martyrs. C'est pour ça qu'on lui a donné le titre de grand missionnaire, patronne des missions, puis jamais allée en mission. Mais elle y était par sa prière. Elle portait dans sa vocation contemplative, elle portait toutes les œuvres apostoliques. Quand on étudie, pour revenir à Marie de l'Incarnation, sa vie, on voit d'ailleurs que sa vie apostolique, c'était tout simplement un débordement de sa vie mystique. Il y avait un diplomate, un homme d'État, Cortés, qui disait que avait eu la générosité d'admettre que ça irait beaucoup mieux dans le monde si on avait moins de batailles puis plus de prières. Parce que celui qui prie se met en contact direct avec la cause première de l'univers. Et par conséquent, il agit directement sur la cause première. Il n'est pas pris avec les causes intermédiaires. Alors, il a ainsi une influence formidable sur le monde. Et c'est dans l'intention du Seigneur que nous ayons de plus en plus une prière comme ça qui s'engage. Je pourrais vous faire la confidence d'une communauté que je connais et dans laquelle il y a un grand nombre de charismatiques. Et le Seigneur, dans un message très clair, leur a dit, dans votre maison, là, dans quelque part au Québec, partez à la conquête du monde. Et je vais vous indiquer moi-même, par vos prières et votre chant en langue, que vous verrez changer dans quel pays et quelle région du monde je vous ai envoyé comme missionnaire. Et leur chant en langue, et leur prière en langue change, et par le rythme et la tonalité, ils commencent à pouvoir déceler pour quelle partie du monde le Seigneur les fait prier. Ça, c'est pas de l'histoire, c'est de l'actualité. Alors, commençons déjà à nous interroger sur ce point-là. Est-ce que dans ma prière, je m'engage? Deuxième point, un engagement qui se prie. Il y a bien des gens qui ont prié, après ça ou à part de ça, s'engagent, mais oublient ou ne consacrent pas suffisamment de temps pour prier au fur et à mesure de l'engagement dans lequel ils sont. Parce que quand on s'engage comme apôtre, même si on a fait de belles sessions de prière pour savoir si le Seigneur nous appelle, si on est son instrument, si on lui a demandé toutes les grâces, il faut continuer continuellement à prier pendant son engagement pour pouvoir discerner au fur et à mesure ses plans, son échéancier, ses ouvriers. Et ce qui a été le malheur de plusieurs de nos œuvres, dans l'Église, c'est pas qu'il a manqué de prière au point de départ, mais il a manqué de prière en cours de route. Quand on a senti que le Seigneur nous avait appelés pour être son instrument, pour fonder une communauté, fonder une œuvre, mettre sur pied un service, quand on est sûr de ça, après ça, les prières manquant, sans s'en rendre compte, on a repris charge et on a éloigné le Seigneur et on en a fait son œuvre à nous et non plus la sienne. Puis on est surpris après 6 mois, 1 an, que ça ne va plus comme ça avait l'air d'être parti et on est sûr que ça avait commencé par être vraiment l'œuvre du Seigneur. Puis comment ça se fait que ça ne l'est plus? C'est qu'à un moment donné, cette communication s'est tarie, faute d'un engagement qui se prie. Ensuite, il faut penser que par la prière, on garde contact avec sa volonté, mais ensuite, on peut constamment résister aux difficultés qui se présentent. Quand on s'engage, on court des risques, puis à un moment donné, bien, les injustices s'en mêlent, les incompréhensions sont là, l'agressivité est là, la fatigue est là. Et tout à coup, si la prière n'a pas persévéré d'une façon intense, l'engagement devient un engagement humain et non plus chrétien. En troisième lieu, une prière est un engagement qui se lie. Donc, d'abord, une prière qui s'engage, un engagement qui se prie, et finalement, une prière et un engagement qui restent ensemble et s'équilibrent. Vie intérieure et vie active s'appellent, se supportent, se mêlent et se complètent. Et c'est là qu'il nous faut absolument faire des efforts pour que notre engagement soit continuellement le débordement d'une vie de prière. Et l'un appelle l'autre dans le sens que plus je prie, plus ça active en moi l'amour de Dieu et de mes frères. Et plus je m'engage, plus ça active en moi le désir de voir Dieu venir au secours de mes frères, parce qu'il m'apparaît alors comme la seule source libératrice de leurs maux. Alors, l'un appelle l'autre. L'union à Dieu suscite l'action, unifie l'action, donne son efficacité, mais il doit toujours y avoir un équilibre entre le Dieu des œuvres et les œuvres de Dieu. Et malheur à celui qui, sans s'en rendre compte, permet que le Dieu des œuvres soit délaissé pour les œuvres de Dieu. À ce moment-là, il s'en va, veut pas, vers un tarissement. Si on voulait pousser, et là-dessus, sur ce lien entre l'action et...